Chapitre 11. Conférence de Léonard à son Académie de Milan. Extrait. L'art n'aura point d'adversaire et ne sera dédaigné de personne si l'artiste s'attache uniquement à faire une œuvre d'art. L'art ne donne pas seulement à chacun du plaisir, mais un avantage moral qui nous sort de notre grossièreté originelle. Soyez assurés que les hommes naissent bêtes, et il y en a beaucoup qui meurent après n'avoir été sur la terre que des sacs où passe simplement la nourriture. Par bonheur, il comprend assez vite que son intérêt l'oblige à devenir sage. Pour nous, artistes, ce qui nous attire, ce n'est pas le gain, dont notre mission vaut bien au moins celle des moines. Ceux-ci vendent publiquement les grâces divines sans que Dieu le leur ait permis. Nous autres rendons visibles Dieu et la Vierge. Quel sermon aura sur le monde autant d'influence que ma scène de Sainte-Marie-des-Grâces ? Lorsqu'il n'y aura plus de prêtres pour prêcher la religion, les hommes les plus pervers verront encore dans une œuvre d'art la puissance de Dieu. Et si de hideux barbares s'attaquaient aux églises pour les souiller de leur sacrilège, ils seraient arrêtés dans leur folie par la beauté de nos peintures sacrées. Notre art explique les mystères, éclaire et simplifie les dogmes les plus obscurs. Le théologien, pour expliquer la Vierge Mère, n'en finit plus dans ses discours, tandis que nous, par l'œuvre de nos crayons ou de nos pinceaux, la rendons immédiatement intelligible à tout le monde. Et cependant, pas un artiste, pas même Fra Angelico, n'a été canonisé. L'amour naît de la connaissance. Plus nous connaissons vivement, plus nous aimons. Or l'artiste, qui ne cesse pas de regarder par les yeux de son corps et par les yeux de son esprit la création, rend par sa contemplation le plus sincère des hommages au Créateur. Où chercher Dieu, sinon dans sa créature qui est l'homme, et quelle meilleure façon de prier que celle de s'efforcer par le dessin de traduire l'image de Dieu ? Celui qui comprend combien est admirable l'ordre de la nature et surtout l'art merveilleux avec lequel est construit le corps humain est vraiment susceptible de connaître et d'aimer l'auteur de toute vie et de songer que le corps n'est rien auprès de l'âme qui, pure ou impure, est toujours une chose divine. Une belle œuvre d'art existe fatalement à la louange de Dieu qui est le souverain artiste car cette œuvre manifeste par la main de l'homme la puissance inspiratrice de Dieu. Nous les leur expliquons en les matérialisant en quelque sorte. C'est nous qui montrons les anges vivants et souriants. Le désir de la beauté nous éloigne de la luxure qui rend tant d'hommes bestiaux. Celui qui est familier, par les yeux et par la pensée, des belles formes nues de l'art ne souffrira que malaisément le nu des courtisanes, puisque dans leur forme, il ne retrouvera pas la perfection que les tableaux ont mise dans sa mémoire. Florence, cité démagogique, ne mérite pas les nobles talents qui sont nés chez elle. Car ne considère-t-elle pas comme un métier la peinture, sous le prétexte que l'artiste reçoit un salaire ? Mais voyons, est-ce que les prêtres ne vivent point de leur sacerdoce, tout en interprétant pour l'éducation de la foule la vérité religieuse ? Il est bien juste que nous vivions du culte de la beauté, puisque sans nous, sans nos efforts, peu de personnes la connaîtraient. Si des prêtres mauvais passent pour très bons, aucun des nôtres ne peut tromper la foule. On voit tout de suite qu'un tableau est bon ou mauvais. Enfin, ce qui prouve que l'homme peut devenir plus facilement prêtre qu'artiste, c'est qu'il y a un peintre pour 1000 prêtres ou moines. L'art possède l'attribut divin, celui de créer, celui de rendre permanent la chose la plus fugace. Le sourire des lèvres douces d'une femme qui charma toute la vie du Dante, nous pouvons pendant des siècles, grâce à nos pinceaux, le montrer à l'humanité entière. Nous sommes donc maîtres du temps. Les hommes, confondus dans des langues différentes, ne peuvent pas se comprendre. La peinture, langue des yeux, commune à tous, est accessible à l'esprit du grand turc aussi bien qu'à celui du lombard. La sculpture, cependant, sauf dans le bas-relief, n'a pas la même faculté d'expression. Privée de la couleur, du jeu de la lumière et de l'ombre, elle représente les mouvements du corps plutôt que ceux de l'âme. L'Antiquité a donné au corps une expression qui ne peut plus être dépassée. Seulement, depuis qu'un homme est mort en Orient et que chaque vendredi on le pleure en Occident, une beauté nouvelle est apparue avec la nouvelle vérité. On ne comprenait jadis que la violence des passions ou la sérénité des dieux, mais ce dieu de l'Orient pleure et il a des passions douces. Grand miracle qui a renouvelé la source de l'art et l'art nouveau peut rivaliser avec l'ancien. Ainsi, le campanule du Giotto l'emporte sur l'obélisque. L'architecture engendre les autres arts, mais l'une de ses filles, la peinture, s'émancipera de sa tutelle pour devenir par elle-même un monument dont on ne mesurera pas les proportions, mais uniquement les vertus de beauté et d'expression. Un artiste, maître de son art, représentera aussi bien, avec la même aisance, une glorieuse princesse qu'une gardeuse d'oie. Mais il doit songer que seules les figures anoblies par la naissance ou par la beauté méritent l'honneur de l'art. Quelques-uns de nous, lorsque je me documentais à propos de la figure de Judas, m'ont accompagné au Borghetto. Mon souci de recherche les surprenait beaucoup, car il est toujours si facile de faire lait. Mais si infâme qu'ait été le vendeur de son dieu, je devais pourtant lui donner une expression qui fût compatible avec celle des autres disciples qui étaient tous beaux. On envisage une figure sous trois rapports. Premièrement, dans son espèce et ses dimensions. Un homme est l'homme, l'animal humain d'abord. Deuxièmement, dans ses passions et leurs gestes. Un lion, dans sa fureur, mugit. Un cavalier s'efforce de maîtriser un cheval. Troisièmement, le trait distinctif de tel personnage, caractérisé par sa façon propre de penser et d'agir. Donc, dans la peinture, trois degrés. La représentation animale, le mouvement passionnel, l'état de la pensée. Les artistes qui se bornent au premier plan ou ne savent pas aller au-delà, n'atteignent pas le but de l'art qui est d'exprimer dans son intégralité la personne humaine. L'homme, ainsi que la bête, s'accouple, chasse, se bat. Mais l'homme pense, la bête, point. Pour rendre les corps dans leur réalité, on trouve facilement des modèles. Mais où découvrir des modèles pour la pensée ? Ceux qui, par des prouesses ou même par l'intrigue, se sont élevés au-dessus du peuple, présentent fatalement des qualités d'intelligence que l'exercice du commandement rend encore plus profondes. Je ne néglige certes pas d'observer la canaille dans ses passions ou ses mouvements. Mais comment mettre de la couleur digne une vraie beauté sur des trognes ? Autant vaudrait copier un paysage tel que nos yeux le rencontrent. Pour qu'un portrait rende une ressemblance véritable, il faut amuser le modèle, lui parler de lui, de ses affaires. Ainsi, parler d'amour à une femme, de combats à un guerrier. Un beau portrait est celui qui domine, attire le spectateur. Pour mieux exercer un charme prenant, l'artiste doit, en quelque sorte, regarder par les yeux de ses personnages et leur donner ainsi quelque chose de sa propre intelligence. Selon que l'artiste modifie autour des yeux et des lèvres de son modèle les ombres, la même tête passera de la rêverie au dédain, de la tristesse à la colère. Ne pas trop se préoccuper de la ressemblance précisément physique. L'énigme attire l'homme, retient son attention et sa sympathie. Les prêtres ont raison de refuser les démonstrations de leur religion. Notre esprit a besoin de s'embarrasser dans la demi-ténèbre des mystères et dans l'inconnu des problèmes qui le rendent anxieux. Un visage beau doit être comparable à une musique de pensées harmonieuses, indéfinies. Une musique nous semble joyeuse ou mélancolique selon la circonstance qu'elle évoque à notre pensée. Un visage plaît à des spectateurs très différents. Il plaît pour des raisons très différentes. Les uns ont prétendu que, dans la scène, j'avais donné au Sauveur une marque trop humaine et que j'avais eu tort, par exemple, de ne pas le signaler par le grand nimbe d'or traditionnel. Les autres ont prétendu que j'avais, chez Jésus, marqué trop profondément le caractère de Dieu parce que Jésus paraît se résigner à la trahison de Judas avec une trop divine indulgence. Mais moi, Je réponds que mon œuvre, satisfait parfaitement à ses intentions complexes, la retrouve dans son expression totale. Celui qui estime que le but de l'art est simplement de reproduire la réalité ne peindra rien de durable, car la nature vit, mais elle n'a point d'entendement. Ce qu'on dédaigne dans la réalité, on doit aussi le rejeter de l'art. Qui donc s'amuserait à composer un tableau avec des mendiants qui sont à la porte d'une église, ou avec les paysannes d'un marché, ou avec les soldats d'un corps de garde, les clients d'une taverne, les juifs d'un ghetto? On commence par rechercher la beauté extérieure dont il est aisé de saisir les éléments, ensuite on s'efforce de dégager l'âme. Si vous voulez étudier, représenter le Christ d'après un modèle, vous n'aboutirez sûrement à rien de convenable. Il faut d'abord, en lisant l'Évangile, se faire peu à peu une image de l'homme-Dieu, puis choisir le moment le plus favorable au relief de cette image, déterminer son attitude et enfin composer les personnages et le site qui doivent dignement l'entourer. Une œuvre d'art, comme un homme, se compose de corps, d'âme et d'esprit. Commencez par exprimer le corps, qui est le connu, ensuite vous chercherez l'âme, qui est l'inconnu, et vous l'atteindrez. N'imitez pas les peintres du Nord qui, sans aller très haut dans le domaine de l'intelligence, savent très bien traduire l'humilité, la piété, mais qui ont le tort vulgaire de copier le premier modèle rencontré et, par conséquent, d'habiller laidement de belles âmes. Dans la rue, ce n'est pas l'homme discret de caractère et de vêtements, noble par la simplicité de son allure, que vous remarquerez tout d'abord, mais l'homme dont les proportions sont excessives ou l'accoutrement bizarre. Les guerriers, dans une œuvre d'art, ne paraîtront jamais trop virils, les captives jamais trop langoureuses. Mais les anges, à quel sexe les rattacher? La barbe, ainsi que les mamelles, ne conviennent pas à des spiritualités. Dans le nu, la chair, si elle fait trop masse de lumière, distrait du visage, qui est le beau miroir des sentiments et de la pensée. Il faut, quant à la tête, la modeler du dedans au dehors, et bravement l'isoler des influences ambiantes, pour qu'à elle seule, elle soit un tableau dans le tableau. On voit des peintres qui ne peuvent pas briser le joug que leur impose la nature. Ils ne l'interprètent pas, ils la reflètent, ainsi que l'étang reflète ses rivages. Mais un maître ne subira jamais cette domination de la nature. Il l'aimera, oui, mais sans devenir son esclave, ce ne sera pas Hercule filant au pied d'Omphale, mais Ulysse en face de Médée, et la contraignant par la raison à lui obéir. Prenez garde dans vos portraits au mode de votre temps. Aux yeux de l'avenir, elles rendront vos œuvres ridicules. Prenez garde également aux idées du présent. Ce n'est pas pour lui, ni pour les contemporains de votre race, que vous travaillez, mais pour l'universalité des hommes et des temps. Prenez garde, enfin, que vos têtes ne prennent pas un air de famille et que ces traits de ressemblance ne compromettent pas la variété des personnages. Imaginez donc que j'ai copié 12 têtes juives du Borghetto sous prétexte que les disciples étaient juifs et que je les ai coiffées de turbans, vêtues de robes qui étaient de mode à Venise. Ah, comme on se serait moqué de moi! Mais, m'objecterez-vous, il ne nous reste alors qu'à draper tous nos personnages à l'antique. À l'antique? Non, pourquoi? Je n'ai jamais conseillé cela. Moi, je drape à la Léonard. Je crée, d'après mes corps, mes robes, mes manteaux et leurs plis. Songez que toute figure peinte doit éveiller le sentiment de l'amour et qu'on se lasse vite de l'éclat de la jeunesse sur un ouvrage qui n'aurait de charme que dans cet éphémère éclat. C'est par l'artifice, par la subtilité, bien plus que par leur charme physique, que les femmes exercent un puissant empire. Il ne faut donc pas représenter seulement des personnages bien proportionnés. Combien de femmes émeuvent, l'une après l'autre, le même homme, tandis qu'il reste ému dans son intelligence jusqu'à la vieillesse par les mêmes pensées qui le touchaient à son adolescence. Pour qu'une œuvre d'art satisfasse pleinement l'esprit, il faut qu'elle manifeste la beauté de l'espèce et aussi la beauté du personnage choisi. L'homme n'aime violemment que l'insaisissable et n'allume son désir qu'au choc de la contradiction. Le goût de la liberté, qui est la plus noble intention de notre esprit, cesserait aussitôt qu'il serait satisfait. Les paillards, les irascibles, les avides, ne sont pas des êtres capables de se soumettre à la méditation et d'en jouir. Ne recherchant sans cesse que les circonstances favorables à la satisfaction de leurs besoins, ils provoquent dans une cité le désordre et la guerre. Celui qui, pour son noble plaisir, étudie les lois de la création, est très sûrement un bon citoyen que les convoitises basses ne tentent pas et qui n'a pas le loisir de jalouser son prochain. Il estime une très haute joie, celle d'enrichir son esprit de connaissances et de pensées. Il a raison, car nous ne sommes véritablement riches que par les pensées. Si vous peignez une femme, il est bon que vous souhaitiez, sans l'espérer, d'en être aimé. Ce sont les seuls amours qui ne finissent pas par des larmes. Certains prêtres, protestant contre l'étude du nu, voudraient que par pudeur on ignorât la splendeur du corps. Mais l'art ne peut pas, sans mentir ni s'amoindrir, renoncer à la grâce ni à la volupté. Tout nous vient par les sens. C'est à nous de savoir en modérer les impatiences en nous élevant par la pensée au-dessus des grossièretés de la matière. Traité de la peinture. La peinture est le produit d'une science qui peut être communiquée à tout le monde car il est pris par les yeux d'où il passe dans l'intelligence. La peinture n'a donc pas besoin d'être interprétée par des mots. Elle s'intéresse non seulement à la figure humaine mais à celle des autres animaux. L'œil qui nous donne le privilège de contempler la nature est d'une telle vertu que celui qui le perd se trouve privé de connaître les gestes et les couleurs de la nature dont la possession rend l'âme contente dans la gaine du corps. Qui n'aimerait mieux perdre l'odorat ou l'ouïe que la vue? En perdant l'ouïe, il serait contraint de renoncer aux sciences que la parole exprime, mais non à la beauté du monde. Le peintre peut, à son gré, évoquer des monstres horribles, aussi bien que des scènes comiques ou d'autres touchantes. Il est son maître, une sorte de dieu faisant des paysages tristes pendant des jours radieux ou, quand il travaille un jour de froid, créant des sites brûlés par le soleil. Ce qui existe dans le monde par réalité ou par imagination doit être possédé d'abord par l'esprit du peintre, ensuite par ses mains. Celles-ci savent produire une œuvre complètement vivante qu'on embrasse d'un seul regard. Les peuples cherchent avec dévotion les images des dieux, non les livres des poètes où ces dieux sont célébrés. Le chien, devant le portrait de son maître, manifeste une grande joie. On a vu un singe s'agiter follement devant un autre singe en peinture et des hirondelles se poser sur des fers peints qui avaient l'apparence de fermer la fenêtre d'une maison. Des peintres ont produit des scènes luxurieuses qui sont susceptibles, ce à quoi ne parvient pas la poésie, d'inciter leurs contemplateurs à la débauche. De même, une œuvre littéraire ne provoquera jamais, comme une œuvre peinte, la vénération des peuples qui lui feront sans cesse des vœux et des oraisons. Il faut que le peintre possède un miroir qui la réfléchisse en même temps que le modèle. Le miroir et le tableau montrent de la même façon l'apparence des choses avec leurs ombres et leurs lumières. La meilleure peinture est celle qui se conforme à l'objet imité. Certains peintres donnent à un enfant d'un an les proportions d'un homme de 30. Ils ont commis tant de fois cette erreur qu'elle est devenue chez eux une habitude et qu'ils n'en auront jamais le sentiment. La peinture et la poésie. Le poète, faute de mots appropriés, ne peut pas, autant que le peintre, représenter une infinité de choses. Si le peintre veut, par exemple, décrire les animaux et les diables dans l'enfer, que de moyens d'expression il possède pour rendre sa pensée. On a classé la peinture parmi les arts mécaniques, puisqu'elle est manuelle. Mais pour l'écriture, pour le dessin, ne se sert-on pas également de la main ? Si vous alléguez que la poésie est chose éternelle, je vous répondrai que les œuvres d'un chaudronnier se conservent davantage encore que des œuvres écrites. Néanmoins, la peinture peut être éternelle si vous peignez sur cuivre avec des couleurs de verre. Le poète décrit un corps membre à membre, tandis que le peintre le montre tout d'un coup. Pour représenter la parole, la poésie vaut plus que la peinture, mais pour représenter les faits, la peinture est supérieure. La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir. La poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. La peinture, traduisant les choses et les figures avec plus de vérité, poursuit un plus noble but que la poésie. La musique doit être considérée comme la sœur de la peinture, parce que cet art s'adresse à l'ouïe, qui est le second sens après l'œil. L'invention musicale reste inférieure à l'invention picturale parce qu'elle ne va pas tout unie dans son développement harmonique. De la sculpture. La sculpture est soumise au jeu de la lumière, tandis que la peinture contient en elle ses ombres et ses lumières. Le sculpteur ne peut rendre les effets si divers de la lumière, la transparence des corps, ni le reflet de leur forme, ni tant d'autres choses naturelles, les nuages, l'obscurité. Son travail n'est guère qu'un effort physique. Il prétend que, s'il enlève à tort, il ne peut pas ajouter comme le peintre. Je lui répondrai que, s'il connaît son art, il ne se trompera pas dans la connaissance des mesures. Je ne m'occupe pas de ceux qui ne sont pas des maîtres, mais des gâcheurs de marbre. Le peintre a 10 moyens d'aboutir au résultat désiré. Lumière, ténèbres, couleurs, corps, figure, site lointain, proximité, mouvement et repos. Le sculpteur ne peut considérer que le corps, la figure, le site, le mouvement, le repos. Le sculpteur enlève et le peintre, au contraire, ajoute. L'ombre, la lumière et la perspective sont des ressources que le peintre doit, à force de réflexion, acquérir, afin de rendre exactement la nature. Le sculpteur trouve la nature toute prête, et si l'on prétend qu'il y a des sculpteurs qui se préoccupent des ressources propres à la peinture, je répondrai qu'alors ils agissent en peintre. Le sculpteur dit qu'il rend le clair-obscur en enlevant de la matière. Mais ce n'est pas lui qui produit cette ombre, c'est la nature même. Car s'il travaillait dans les ténèbres, il ne verrait rien, parce que tout dans les ténèbres paraît uniforme. La sculpture est donc assistée par la nature dans ses expressions, et sans l'intervention de l'artiste, elle opère. Il y a beaucoup de personnes qui ont le goût du dessin, mais qui, manquant de dispositions véritables, ne finissent jamais leurs croquis avec des ombres. Cela se voit surtout chez les enfants. Conseil. Si tu es seul, tu seras tout à toi. Si tu as un camarade, tu ne t'appartiendras qu'à moitié. Je n'appelle pas maître celui qui ne fait bien qu'une tête ou une figure. Sachant que la peinture s'adresse à la création entière, je n'estime pas pour maître celui qui ne connaît qu'un genre. Triste maître que celui dont l'œuvre va plus loin que le jugement. Il atteindra, au contraire, la perfection de l'art, celui dont l'intelligence va plus loin que l'œuvre. Sache, peintre, que lorsque, à ton avis, une défaillance existe dans ton œuvre, tu dois la modifier plutôt que de l'exposer à la vue du public, et ne commets pas la lâcheté de penser que tu pourras réparer tes erreurs dans une œuvre prochaine. Le peintre, qui a les mains puissantes, les reproduira inconsciemment dans ses œuvres, et même les défauts de son corps, si par une longue étude, il ne se garde pas de cette faute. Un peintre qui connaît son métier fera tout aisément, car tous les animaux ont similitude de membres, de muscles, de nerfs et d'os. Il ne varie guère que par les dimensions, ainsi que le démontre l'anatomie. Lorsque tu seras peintre, dans la campagne, efforce-toi d'observer avec attention les moindres choses, et puis d'éliminer de ta mémoire les moins bonnes. N'imite pas certains qui, harassés par le travail de l'imagination, abandonnent leur ouvrage pour aller au plaisir. Ceux-ci, lorsqu'ils rencontrent des parents ou des amis, ont l'esprit tellement fatigué que, tout d'abord, ils ne les reconnaissent pas. Le peintre doit s'efforcer vers l'universalité, non adopter un genre exclusivement, faire bien une chose, négliger les autres. Beaucoup qui, par exemple, étudient le nu mesuré, ne s'intéressent pas à ces variétés. Quel talent peut avoir celui qui, ayant la prétention de donner la connaissance intégrale, en abrège une partie? Qu'il n'allègue pas que, par pauvreté, il n'a pas le temps de se perfectionner dans ses études. L'étude est un trésor qu'on ne retrouve pas toujours. S'il excuse ses imperfections en disant qu'il a une nombreuse famille à entretenir, sache bien que peu suffit à nourrir ses enfants. Leur plus fort aliment doit être le courage, et cette vertu est une richesse qui nous reste aussi longtemps que la vie dure en nous. Pour dessiner de l'ombre à la chandelle ou à la lampe, place entre la lumière et la figure un châssis de toile ou de papier huilé, ou même un papier très mince, et tu verras que les ombres, au lieu de se terminer durement, s'estompent. Quand un visage se présente sur le seuil d'une habitation, dans le cadre de la porte, à une heure de la nuit, on voit de gracieux effets d'ombre et de lumière jouer sur ce visage. L'ombre s'insinue un peu dans la partie éclairée, tandis que, dans la partie de l'ombre, des clartés s'insinuent aussi, et de ce mélange insensible de l'ombre et de la lumière, le visage reçoit encore plus de beauté. Il ne faut pas, chez soi, composer une figure avec une lumière imitant celle du jour de la campagne sans soleil. L'ombre dehors est simple et la lumière de la fenêtre et du soleil confond des reflets sur de l'ombre. L'atelier doit, à l'abri de l'air, avoir des murs couleur de chair pour la carnation des nues. En été, on doit y faire les portraits, certains jours où les nuages couvrent le soleil. Celui qui va peindre sur une muraille doit observer la hauteur du plan où il entend disposer ses figures. En exécutant d'après nature, il doit, devant son travail, tenir l'œil aussi bas que le lieu où il travaille est plus élevé que l'œil du spectateur. Fixe la toile sur un châssis, frotte-la d'une légère couche de colle et laisse sécher. Fais ton dessin, indique les carnations avec des pinceaux de soie et tout de suite tu obtiendras, à ton gré, l'ombre vaporeuse. La carnation se fera avec du blanc, de la laque et du massicot. L'ombre avec du noir et du massicot et un peu de laque ou même de la pierre noire. Laisse sécher cette ébauche. Ensuite, retouche avec de la laque détrempée dans de l'eau de gomme où elle aura séjourné longtemps parce qu'alors elle ne laisse aucun lustre quand on s'en sert. La première peinture fut simplement une ligne qui marquait l'ombre d'un homme dessiné par le soleil sur un mur. Le peintre n'obtiendra pas un ouvrage bon ni profitable à son talent s'il se borne à s'inspirer des œuvres de son prochain. S'il s'inspire de la nature, il obtiendra des résultats excellents et avantageux. Le principe de la peinture est, premièrement, le point, deuxièmement, la ligne, troisièmement, la surface, quatrièmement, le corps qui se vêt de cette surface. Le second principe est l'ombre projetée par la forme d'un objet. La perspective se divise en trois parties, celle qui intéresse le linéament du corps, celle qui traite de la dégradation des couleurs selon la distance, la troisième qui étudie la disparition progressive des corps, leur croissant éloignement. L'artiste, à ses débuts, doit apprendre d'abord la perspective, puis la manière de mesurer les choses, enfin, sous les conseils d'un bon maître, le dessin. Il observe alors si, d'après la nature, il possède un enseignement juste. La pupille diminue selon l'ardeur de la lumière. Elle croît en proportion de l'obscurité. Les oiseaux nocturnes voient mieux pendant la nuit que pendant le jour. Cela provient de l'accroissement ou de la diminution de leur pupille. De tous les corps égaux de dimension et placés à une même distance, c'est le plus éclairé qui paraîtra le plus grand et le plus rapproché. À quelle distance un œil peut-il voir un corps non lumineux, par exemple une montagne? Elle sera plus apparente si le soleil se trouve au-delà, et sa distance probable dépend de la place que le soleil occupe dans le ciel.